Bonjour et bienvenue au Voix de Service Magazine, édition du 14 mars 2019. Monique Hiroac au micro, en compagnie et bien sûr, en compagnie de Jean-François Roy.
Bonjour le beau trio du jeudi.
Bravo, bravo.
Merci. Alors, que nous avez-vous concocté, non, préparé? C'est une petite face.
Oui, fallait placer ce mot-là. Hein?
Oui, c'est ça. Pour aujourd'hui, Marie.
À moi, en première partie d'émission, je vous parle des parents, de l'importance des parents qui sont derrière les enfants qui ont un talent particulier.
Ah, comment ils vont les encourager?
Oui, oui.
Ah, d'accord.
Et à quel point ils sont importants dans la réussite des enfants.
Essentiel.
Oui.
D'accord. Yvan, de votre côté?
Moi, je vous parle d'une école où ils font du vélo le midi, tous les midis, pour se préparer à une randonnée au mois de mai.
Oui. D'ailleurs, je pense que la ligne conductrice de vos articles aujourd'hui, c'est pédaler.
C'est école puis pédaler.
Oui, oui, on pédale, en fait. Oui. Hein? Alors, de mon côté, est-ce que les livres empoisonnés, ça existe vraiment? Est-ce que c'est une légende?
Oh, quand comme on tourne la page?
Ouais, oui, comme dans Le Nom de la Rose.
Comme dans Le Nom de la Rose.
Ben,
je vais vous révéler ça. Et si oui, est-ce que c'est dangereux? voilà.
Présenté comme ça.
Le menu pour la première partie de notre émission. Alors, Yvan, on commence à pédaler.
Oui, à l'école. C'est un article de Marie Allard dans la presse du 7 mars. Ça s'appelait « Pédaler à l'école », justement. À l'école primaire, les Trois Soleils de Laval, un local était libre. Rien de luxueux. Une petite pièce, attenante au gymnase au sous-sol. Au lieu d'y entreposer des ballons, l'école a décidé d'y cultiver un grand projet, un coup de pédale à la fois. Une douzaine de vélos stationnaires y ont été installés.
Je savais pas que ça
là-dedans.
Poussait des vélos. Cultiver des vélos, c'est quelque chose de
tu
nouveau.
Tu coupes les
là.
Chambres à air, puis tu mets les petits morceaux.
Ah, d'accord.
Quand « You never can tell » de Chuck Berry résonne dans les haut-parleurs et que l'enseignante Marie-Ève Lavertu encourage les enfants à pédaler, on en oublie presque les murs en panneaux bleu poudre. C'est cool, hein, s'exclame l'enseignante, encore essoufflée par l'entraînement. Avec l'autre enseignante de sixième année, elle anime 3 séances de cardio-vélo par semaine le midi depuis janvier. Ils ont une longue période de dîner qui dure 1h20, alors les élèves ont le temps de s'entraîner et de manger. Les 62 jeunes de sixième année, sans exception, y participent en alternance. Les cyclistes cassent ensuite la croûte avec leur enseignante en classe. C'est bien parce que c'est sportif et ça nous garde en forme, témoigne Émilie Hubert, 11 ans. Ça nous encourage à faire notre 106,5 km de vélo. C'est quand même beaucoup. Qu'est-ce que c'est 106,5 km de vélo? C'est ce que pédaleront les élèves de 6e année des Trois Soleils le 17 mai lors de la 5e édition du défi vélo Persévérance encadré par de nombreux bénévoles. Ils vont partir de la gare de Labelle et prendre la piste du Petit Train du Nord jusqu'à la vieille gare de Saint-Jérôme.
Donc ils descendent.
Oui,
c'est ce que vous souhaiteriez, Marie.
Oui, moi, c'est ce que j'aimerais.
Mais c'est pas une pente.
Non, c'est une pente douce.
Oui, c'est une pente douce. Oui, c'est ça. Ah. C'est un faux, comme je dis des fois, un faux plan descendant. Ça arrive, ça n'existe pas des faux plans descendants.
Non, non.
Encore là, tous les élèves prennent part à l'événement. Cette année, nous avons 2 élèves avec un trouble du spectre de l'autisme et 1 élève diabétique qui font le défi, souligne le directeur. Par le passé, un enfant l'a fait en vélo girafe tiré par un adulte. Il y a toute ma sympathie, c'est vraiment l'ouvrage. D'autres qui ne savaient pas rouler ont eu droit, au préalable, à des cours d'initiation au vélo donnés par le personnel de l'école. Déjà l'automne dernier, les finissants des Trois Soleils sont tous partis en randonnée jusqu'au sommet du Mont-Tremblant. On leur montre que même si c'est dur, des bouts, on y arrive ensemble, nous raconte l'enseignante Marie-Ève Lavertu. Si tout cela est possible, c'est notamment grâce à une subvention de la Fondation du Grand Défi Pierre Lavoie. Les 12 vélos stationnaires qui s'imbriquent les uns dans les autres, puisque le local utilisé sert aussi à des ateliers multimédia, ont coûté environ 9 000 $L'appui des familles est aussi primordial. Les parents participent, ils veulent que leurs enfants réussissent. Ça crée une belle chimie familiale. Le défi vélo de l'école Les Trois Soleils, c'est une initiative qu'il faut encourager et mettre à l'avant-plan au Québec, estime Sylvain Turcotte, qui est titulaire de la nouvelle chaire de recherche Kino-Québec sur l'adoption d'un mode de vie physiquement actif en contexte scolaire.
Petit nom.
Oui. Quand je travaillais, j'étais au fédéral, moi, puis les titres, c'était dans les deux langues.
Oh my God.
Ça prenait des bonnes cartes.
Oui.
Si on veut créer un environnement actif et que l'ensemble des intervenants participent en complémentarité avec l'éducateur physique, je pense que les enfants vont y gagner, observe-t-il. La vraie bonne idée de l'école de Laval est de préparer les élèves aux défis tout au long de l'année. C'est une des meilleures stratégies. On veut développer des habitudes de vie. Autre atout, l'accent est mis sur la distance à parcourir en groupe, pas sur les prouesses individuelles. Si on propose des activités où on démocratise la pratique de l'activité physique, on ne se trompe pas, tranche l'expert. Ça risque d'avoir un effet beaucoup plus grand sur l'estime de soi et la motivation des jeunes qu'un défi trop compétitif. Alors, c'était l'article « Pédaler à l'école » de Marie Allard dans la presse du 7 mars. Et en bref, tantôt, je vous parle d'une expérience un petit peu semblable, mais dans les bibliothèques de Montréal.
Et peut-être en studio, éventuellement.
Et pourquoi pas?
Alors, c'est à mon tour, non pas de vous parler d'amour, mais de vous parler de livres. Alors, sous la plume de Sylvie Briette, pour la revue Science et Avenir de décembre 2018, un article qui s'intitule « Des livres empoisonnés, tapis dans les bibliothèques ». Alors, il y a trois chercheurs danois qui ont été intrigués par la couverture de trois livres des rayonnages de la bibliothèque de l'Université du Danemark du Sud. Ces livres, en fait, la couverture a été réalisée au 16e ou 17e siècle et les reliures sont composées de fragments de manuscrits médiévaux réutilisés.
Alors,
On récupérait déjà. Et semble-t-il que ça n'a pas surpris les spécialistes qui savent que les éditeurs de l'époque recyclaient des parchemins ou des papiers plus anciens par souci d'économie. Mais c'est plutôt l'épaisse couche verte, les recouvrants, qui intrigue en fait. Alors cette poudre empêche la lecture d'une partie des inscriptions, donc c'est un peu frustrant pour les chercheurs. De quoi s'agit-il? Les chercheurs donc décident de recourir à la technologie de la spectrométrie de fluorescence à micro-rayons X.
J'étais pour le dire.
Oui, afin d'en explorer la composition chimique. Ils découvrent que ce pigment vert contient une grande concentration d'arsenic.
Et voilà.
Plus précisément, de l'acétoarsénite de cuivre, qui est aussi appelé vert de Paris, n'est-ce pas plus joli, ou vert de Schweinwurz, interdit en France en 1833 en raison de sa toxicité. Pendant ce temps-là, à Washington, un mois suivant la publication de cet article, après avoir lu donc cet article publié par les chercheurs danois, Alexandra Newman, qui est historienne du livre et qui travaille à une des bibliothèques de la Smithsonian Institute, se précipite sur l'un des ouvrages de ses ouvrages favoris, qui est une édition de 1603, qui est le premier livre, en fait, européen consacré aux insectes et qui est illustré de gravures. Elle comprend qu'il possède aussi des similitudes avec les livres danois. Alors, qu'est-ce que fait Madame Newman? Eh bien, à son tour, elle veut tester cette peinture verte. Et elle découvre qu'elle est bien sûr toxique, elle aussi. Donc, les chercheurs danois et la chercheure américaine ne cachent pas la dangerosité de ces ouvrages, parce que l'arsenic, c'est l'un des plus puissants poisons au monde. Si vous touchez ce pigment vert et que vous vous léchez les doigts, bien vous risquez une grave intoxication, d'autant que la toxicité de l'arsenic eh bien, ne diminue pas avec le temps.
Ah oh, ben!
Ah ben! Hein? Une intoxication qui peut aller de la simple irritation de l'estomac et des intestins à un empoisonnement plus grave. Et si on en prend à forte dose, ben c'est mortel. Mm-hmm. C'est aussi une substance cancérogène. Alors, en outre, dans des conditions de conservation humides, elle peut aussi se transformer en gaz toxique. Alors, pourquoi les relieurs d'autrefois ont-ils pris le risque de recourir à ces éléments chimiques? D'abord, semble-t-il, peut-être pour la mise au ban de certains ouvrages au contenu jugé sulfureux.
Sulfureux.
Donc,
il aurait pu mettre soufre.
Ben, c'est ça, tout simplement. Pour d'autres, c'était peut-être destiné à cacher des textes catholiques médiévaux qui avaient servi à la fabrication de la reliure après la réforme du 16e siècle. Mais pour l'heure, on ne sait pas trop. Ça pourrait être aussi pour protéger la reliure contre les insectes et la vermine, qui sont des grands amateurs de livres.
De livres.
Bon, on ignore quand ce pigment a été appliqué, mais on sait, d'après l'apparence de la couverture, que c'est vraiment typique du 16e siècle. Sont-ils nombreux, ces ouvrages empoisonnés cachés dans les bibliothèques? En fait, on ne le sait pas.
Ah. Mon Dieu, c'est inquiétant.
C'est inquiétant. Les deux chercheurs danois sont convaincus qu'il en existe d'autres. Il y a seulement la chercheure américaine qui s'est manifestée, mais ils espèrent qu'au fil du temps, ben, il y en aura d'autres et qu'on pourra peut-être élucider ce qui est écrit derrière cette matière verte.
Et prévenir
aussi. Donc, oui. C'était un article de Mme Sylvie Briette pour la revue Science et Avenir du mois de décembre
donc,
2018.
Donc, l'avenir est au livre audio.
Eh oui, exactement. Mais donc, au nom de la rose, c'était pas une légende.
D'accord.
Café noir, café clair, café. J'aime trop le café, je me lève tôt, je prends un café. Du lait chaud dans mon café, café. Au resto, je prends un café.
Appelle-moi le smoke cappuccino. Je prends mon café avec mon verre de vino comme un prof de philo. Je commande des grains au kilo, puis je les range dans mon silo. Je suis sur le Coca-Cola. Je prends des gros refills au Cora. Après, je sors à la Maradona, puis je fais des marathons à Donnacona. Je prends des nuages de lait, un peu de sucre, yeah, c'est comme ça que je l'aime. Pas le choix, je prends un Tim Hortons, puis chaud high comme Michael Jordan. Passe-moi la balle, ton truc c'est la balle. Je redeviens tribal, puis je chante plus mon visage. Prononce plus mes syllabes, mon Dieu, c'est formidable. Je suis comme sur un mirage, sur le bateau de Sinbad.
J'aime trop le café, le café. Je me lève tôt, je prends un café. Du lait chaud dans mon café,
dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Chaque jour, quand je me lève, je pars ma cafetière comme les gens célèbres. La température de l'eau s'élève. Quand j'ai pas mon café, yo, je m'énerve. Une crème, deux sucres, dans le métro ou dans l'autobus. Dans mon backpack, j'ai ma carte aux puces et une nouvelle tasse à café que je viens d'acheter au marché aux puces. Yeah, Americano S. Presso dans la bière, je demande un double à l'hôtesse. Mentalité zen, j'évite le gros stress. Y'a vraiment beaucoup trop de saveurs qu'il faut que je teste. Noisette vanille, café pour tes boys, pour ta belle famille. Yeah, je me spécialise, je prends un café avant de partir et dès que j'arrive.
Café noir, café crème. Café noir, café crème.
Café, trop le café. Je me lève tôt, je prends un café. Du lait chaud dans mon café.
Dans mon café.
Au resto, je prends un café.
J'prends un café.
J'aime trop le café. me lève tôt, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Tu l'es chaud dans mon café.
Dans mon café, dans mon café.
Au resto, je prends un café.
Je prends un café, je prends un café.
Eh bien, on a ça en commun. J'aime trop le café, moi aussi. Cette fois-ci, c'est une collaboration. C'est Sam Fay et Détrac. C'est sorti en 2017.
Oui, puis il y a l'énergie de gens qui ont bu du café ici.
Oui, voilà. Matin, c'est un peu à votre image, les amis.
Bon, merci beaucoup.
C'est parti.
Alors, Marie, vous nous parlez des talents des enfants, mais surtout de l'appui des parents.
Et de l'importance, oui, de cet appui. En fait, l'article s'intitule « Comment cultiver les talents des enfants ». Donc, une première partie d'abord, c'est un texte de Nathalie Couzon que j'ai trouvé sur le site RIRE, Réseau d'informations sur la réussite éducative, au début mars, le 5. Mm-hmm. La recherche montre que les parents peuvent constituer l'un des plus importants facteurs qui influencent le développement d'un enfant et ses accomplissements futurs. D'ailleurs, de nombreuses personnes qui ont réussi brillamment dans leur vie professionnelle ou qui sont devenues des chefs de file dans leur domaine citent leurs parents comme le facteur ayant le plus contribué à leur réussite. Ce constat a été également confirmé par une étude de Kenneth A. Cura, professeur en psychologie de l'éducation à l'Université du Nebraska-Lincoln et auteur de « Nurturing Children's Talents, a Guide for Parents » et de certains de ses collègues. En examinant de nombreux cas d'étudiants très talentueux, de champions sportifs et d'artistes prodiges, ils ont découvert ce fil conducteur de presque toutes les réussites. Les parents jouent un rôle essentiel dans l'atteinte du plein potentiel de leurs enfants. On peut penser que le talent est inné. Pour le prouver, on raconte souvent, par exemple, l'histoire de Mozart, qui savait jouer du piano à 3 ans et qui composait à 5 ans. Mais ce qu'on oublie de préciser, c'est que le père de Mozart était musicien, compositeur et professeur, qu'il a consacré une partie de sa vie à enseigner à son fils, qu'il l'a aidé à s'exercer pour améliorer son jeu et à atteindre la perfection. C'est donc après une 15aine d'années d'exercice ardu et d'enseignement de haut niveau que Mozart, au début de la 20aine, a réussi à produire son premier chef-d'œuvre. L'histoire de ce musicien d'exception nous apprend une chose, le talent n'est pas inné, il se développe. Il s'inscrit dans un continuum d'apprentissage auquel les parents ne sont pas du tout étrangers, dans lequel ils jouent au contraire un rôle essentiel. Un psychologue cite « Ce que toute personne dans le monde peut apprendre, presque tout le monde peut l'apprendre si on lui fournit les conditions d'apprentissage appropriées ». Cura a tenté d'établir la convergence des facteurs liés au développement des talents lorsque son propre fils a démontré un intérêt marqué pour les échecs dans son enfance. Il a découvert qu'une constellation de facteurs environnementaux déclenchés de manière synchrone aide à l'éclosion du talent et contribue au succès global de l'enfant. Les résultats de ses recherches ont confirmé que si le développement des talents est bien lié à 4 facteurs, alors ces 4 facteurs, c'est l'expérience précoce, l'accompagnement, l'exercice ou l'entraînement et la motivation. Donc, il y a plusieurs études qui ont démontré ça aussi. Mm-hmm. Mais il ajoute que les parents jouent un rôle central, voire essentiel, dans la mise en œuvre de ces 4 facteurs. Et le dévouement parental constituerait donc le 5e facteur lié au développement des talents. Lorsqu'on a demandé à Cura comment les parents pouvaient détecter le talent de leur enfant, le chercheur a déclaré qu'il ne semblait pas vraiment y avoir de formule magique ni de résultat garanti. Certains enfants peuvent réaliser des choses incroyables et d'autres pas vraiment. Mm-hmm. L'essentiel serait en fait d'initier les enfants à une variété d'expériences pour découvrir ce qui les intéresse. Et puis, quel que soit leur goût, leur champ d'intérêt ou leur passion, il s'agirait de nourrir leurs aptitudes, leurs talents ou leurs passions, d'apporter un soutien parental en tout temps. Les enseignants jouent également un rôle important dans la détection des talents chez les enfants. c'est toujours le spécialiste qui dit ça. En effet, il existe de nombreux cas où les enfants peuvent manifester leur intérêt pour quelque chose dans un cadre scolaire. Des enseignants peuvent découvrir chez un enfant un talent dont les parents n'ont pas encore pris conscience. Une bonne communication, donc, entre les parents et les enseignants s'avère donc importante. Donc, on prend une petite pause musicale, puis je vous présente après les 5 facteurs liés au développement des talents des enfants.
Continue, Marie?
On continue. Donc, ces 5 facteurs, on les développe. D'abord, l'expérience précoce. Cura a observé que les graines de talent, alors comment on les appelle, sont généralement semées tôt et à la maison. Plus de 90 % des personnes interrogées par Cura et ses collègues ont en effet été initiées par leurs parents, avant l'âge de 5 ans, à l'activité ou au domaine dans lequel elles excellent. Pour certaines d'entre elles, leurs parents étaient eux-mêmes des artistes, des athlètes d'élite ou des entraîneurs. Pour d'autres, les parents ont su créer un milieu propice à l'épanouissement, ce qui a permis aux talents de leurs jeunes d'éclore. Deuxième facteur, l'importance du coaching. Cura et son équipe ont constaté qu'afin de parfaire leur art ou leur sport, les enfants qui ont fait l'objet de leur étude avaient souvent été jumelés à des entraîneurs et instructeurs d'élite. Ils ont aussi remarqué que les progrès des enfants étaient encore plus grands quand les instructeurs incluaient les parents dans le processus d'apprentissage. Par exemple, quand les parents étaient présents lors d'une leçon de musique et qu'ils étaient conscients des exercices qu'ils devaient faire aux enfants après. Troisième facteur, la constance de l'exercice ou de l'entraînement. Le succès est également le résultat d'un entraînement ou d'exercices réguliers qui suivent une planification précise basée sur de petits ajustements pour arriver à bien développer les habiletés ou les techniques nécessaires. Dans ce très long processus, l'implication des parents est essentielle pour garantir aux enfants le temps, les ressources et le soutien nécessaires à l'instauration d'une routine quotidienne. Quatrième facteur, la motivation. Cura affirme que, contrairement à la perception populaire, ça m'a beaucoup étonnée, le stéréotype des parents qui désirent pousser leur enfant pour leur propre bénéfice n'existerait pas. Du moins, lui, il n'a pas rencontré de ce type de parents en effectuant ses recherches.
Il n'est pas allé dans des arénas.
Non, lui, c'est là. Ça fait longtemps qu'il n'est pas allé là. Oui, bon, alors on est étonné tout le monde.
On pense à plein de personnes.
Oui, tout à fait. Alors lui, il a rencontré, au lieu de ça, des enfants extrêmement motivés à apprendre, à vivre leur passion, qui demandaient l'aide de leurs parents pour réussir à atteindre leur objectif. D'ailleurs, des études ont montré que même si de nombreuses heures passées à s'exercer à un instrument de musique, par exemple, peuvent rendre un individu plus compétent dans la pratique de son art, c'est surtout sa passion profonde qui fait qu'il devient exceptionnel. Parce que cette passion, notamment, permet de garder des taux élevés de dopamine dans le cerveau. Et on rappelle que la dopamine, c'est le principal neurotransmetteur émis dans le circuit de la récompense. Le dernier facteur, c'est le dévouement parental. D'après les observations de Cura, les enfants qui ont atteint de hauts seuils de réussite ont eu la chance d'avoir des parents dont l'implication avait été sans borne. Ces derniers ont en effet nourri la motivation de leur enfant. Ils l'ont maintenu par leur engagement à le soutenir. Ainsi, ils ont pris en main la gestion du parcours de leur enfant, les horaires, les leçons pratiques aux préparatifs et le transport aussi. Beaucoup de ces parents ont fait d'énormes sacrifices pour que leurs enfants s'accomplissent. Certains d'entre eux ont même abandonné leur carrière ou déménagé pour que leurs enfants bénéficient du meilleur environnement d'apprentissage. Il apparaît que le fait de réunir les enfants qui ont des talents similaires dans un endroit où ils ont accès à des ressources et un encadrement d'experts les aide à performer. Bien entendu, je vous entends penser, on peut critiquer cet engagement social ou total des parents qui peuvent, au fil du temps, consacrer à leur enfant énormément de ressources et de temps. Alors, un bémol, toutefois, l'approche adoptée par Cura et ses collègues dans leur étude comporte certaines limites. Par exemple, les parents interrogés étaient presque tous des Américains de race blanche appartenant à la classe moyenne ou supérieure. La portée de l'étude ne permettait pas non plus d'examiner en profondeur les influences culturelles sur le rôle parental. C'est pourquoi Kiura et son équipe ont l'intention de poursuivre leurs recherches en enquêtant sur cette dimension, ainsi que sur la manière dont les études à distance ou en ligne et les outils technologiques favorisent ou non le développement des talents des enfants prometteurs. Alors voilà, je rappelle que c'est un texte de Nathalie Couzon, publié sur le site Rire le 5 mars dernier.
On pourrait ajouter la maîtrise de soi qu'on a vue la semaine dernière. Oui. Il y a des enfants qui mangent le marshmallow et qui n'attendent pas le deuxième.
C'est vrai, tout à fait.
Alors, Yvan, une petite brève.
Oui. Donc, qui dit bibliothèque dit calme. Tout un défi pour les jeunes qui ont besoin de bouger. Jusqu'à ce qu'arrivent les vélos pupitres, des postes de lecture munis de pédaliers silencieux. L'utilisation du vélo pupitre favorise la concentration durant la lecture, notamment chez les jeunes et les adultes qui souffrent d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, mieux connu sous le terme TDAH. Indique Linda Boutin, relationniste à la Ville de Montréal. C'est un service très populaire dans nos bibliothèques. Aujourd'hui, 33 bibliothèques de Montréal offrent un total d'une soixantaine de vélos pupitres. Deux modèles sont offerts. Un petit pour les enfants de 3 à 7 ans, je ne sais pas s'il y a des petits trous en arrière, et un plus grand pour les jeunes de 7 à 77 ans, évidemment, comme les lecteurs de Tintin. Uh-huh. Et un gros avantage, le casque n'est pas requis, à moins d'être très grouillant.
C'est très bien. Je le prédis, on en aura en studio. Marie?
Alors, on peut trouver sur le site toutpetit.org une animation qui porte sur la santé mentale des tout-petits. C'est l'Observatoire des tout-petits qui a publié ça. C'est vraiment très, très intéressant.
Mm-hmm. Mm-hmm. Un petit mot d'enfant? Oh non, je pense que nous n'aurons pas de petit mot d'enfant.
La suite. À la prochaine partie, il faudra
alors,
rester.
S'il vous plaît, restez à l'écoute. Nous poursuivons après cette petite pause. Voilà de retour. Marie, quel sera le sujet abordé en cette deuxième partie?
Moi, je vous parle de méditation dans des écoles en Angleterre.
Oh!
Ouais.
Mais probablement qu'on peut appliquer ça ici aussi, hein?
Oui, puis en fait, eux, aujourd'hui, ils en auraient vraiment besoin.
Oui.
À cause du Brexit.
Oh mon Dieu,
mais,
oui.
Mais c'est dans les écoles que ça se passe.
D'accord. Ouais. Et de votre côté, Yvan?
Ben moi, je vous parle d'une randonnée à vélo. Jusqu'à présent, c'est banal.
Oui, oui, parce que là, on pédale beaucoup avec vous.
De Montréal à Québec, encore là.
Ça se fait.
C'est plutôt banal. L'hiver? Oh! Avec des jeunes qui viennent pas du Québec.
Oh, l'autre défi.
Ouais.
Oh, on a hâte d'entendre ça. Alors, de mon côté, je vous parle d'écureuils. On voit nos écureuils cacher toutes sortes de choses partout. Comment ça se passe? Est-ce que c'est leur odorat qui leur permet de retrouver ces petits objets cachés?
C'est une bonne question.
Je ne me suis jamais posé la question.
Ben voilà, je vous parle de la mémoire de l'écureuil. Alors, on remonte sur nos bicyclettes, Yvan.
Oh oui, puis habillez-vous. Ça s'appelle le challenge polaire. Pédaler pour s'intégrer, c'est sous la plume de Gilles Morneau dans le Vélomag de mars 2019 et je vous en parle en deux interventions. Rallier Québec à partir de Montréal à vélo, en plein cœur de l'hiver, voilà une idée saugrenue, surtout quand les cyclistes arrivent tout juste au pays ou qu'ils en sont à leur premier coup de pédale. C'est à ce genre de projet que carburent Luc Richer et les animateurs de Motivaction Jeunesse. Ça sent bon dans le gymnase. Ah, l'odeur typique de la lasagne accompagnée de salade César et d'un petit pain servi dans une assiette de carton bien détrempé qui plie au milieu.
Ah oui? Bon, OK.
Vous connaissez...
Ça sent l'activité pour trouver des sous, hein?
C'est ça.
Ah oui, j'allais dire c'est pas très vegan, mais c'est correct.
C'est le repas rituel qu'engouffrent les sportifs attablés en rang serré dans un aréna ou sous un chapiteau lors d'événements cyclistes de masse. Donc, j'ai mangé quelquefois de ces choses-là. Dans cette école primaire de Neuville, ça c'est près de Québec, le festin est le même. Or, le groupe est aux antipodes de la foule habituelle des grands événements. Ici, pas de jambes rasées, pas de cuissards, pas de coups de soleil ni de visage bronzé en raton laveur. Les 13 gars et 3 filles attablés sont âgés de 12 à 29 ans et originaires de 10 pays différents. Ils étudient au centre Louis-Joliette ou à l'école secondaire Vanier à Québec. Ils sont affamés, mais pas épuisés. Ils sont de bonne humeur. En effet, ils se rapprochent de leur objectif. Plus qu'une journée à pédaler avant d'atteindre Québec. Ils viennent de vivre ensemble 5 jours qui les ont soudés, car ils ne l'ont pas eu facile. Partis de Montréal, ils ont roulé quotidiennement entre 30 et 75 kilomètres, souvent avec vent de face, essuyant une journée de pluie intense suivie d'une autre de verglas. Bienvenue au Québec. Oh. Ça s'est passé il y a un an, d'ailleurs. Il y a un petit indice là, dans le texte qui nous fait comprendre que c'est l'année passée.
Je pense que c'est pire que l'igloo, ça.
Oui, oui, oui.
Mais c'est là qu'ils ont couché. Non, c'est pas vrai. Ensemble, nous sommes le monde. C'est le slogan du Challenge polaire. Le cri d'équipe que lance le groupe à tout bout de champ. Cette expédition vise à attirer l'attention sur ces jeunes, sur le fait que ces jeunes soient parachutés ici après avoir fui leur pays et qui subissent un choc culturel et humain, soit nés ici, mais en difficulté d'insertion. Chaque jour, la bande de cyclistes a rencontré des élèves dans des écoles ainsi que les médias locaux, les éveillant à leur réalité, à leur difficulté à comprendre le mode de vie nord-américain. Ils finissent par exemple par saisir que la bulle d'intimité des Québécois est un peu plus grande que celle des Africains, ou qu'ici, il est normal de ne pas être ami avec son voisin. Parlez-en à Ayoub Rohingya, né dans un camp de réfugiés, qui a passé sa vie ballotté d'un camp à l'autre, apprenant 5 langues avant d'arriver au Québec à l'âge de 13 ans. Écoutez Teddy, dont la famille a quitté le Burundi en raison du fait que son père était considéré comme ennemi du régime. Racontez le plus beau jour de son existence, tout récent, ce samedi matin où ses parents ont ouvert la lettre confirmant l'acceptation de leur statut de réfugié. Chacun de ces magnifiques jeunes possède son histoire, vit son intégration à sa façon. Cependant, tous sont heureux de maintenant habiter ici parce que c'est un endroit où il y a la paix. Après le souper, le groupe regarde les Jeux olympiques à la télé. C'est pour ça que je sais que c'est l'année passée, c'est pas cette année. Puis s'esclaffe et s'applaudit en visionnant le film de la journée tourné et monté par un des accompagnateurs. Une sympathique partie de volleyball s'organise ensuite. Et oui, il reste de l'énergie à ces jeunes. Par contre, dès 22h, personne ne se fait prier pour retrouver son sac de couchage. Et là, je fais une petite pause pour les laisser dormir et je vous reviens dans quelques instants.
On se réveille, on s'étire, ouais, on a mal partout.
Là, on est toujours dans le challenge polaire, qui est de rejoindre Québec à partir de Montréal, mais l'hiver, pour les personnes qui sont nées ailleurs qu'au Québec. Alors, le lendemain matin, tout le monde est debout très tôt. L'atmosphère est fébrile, car c'est l'ultime étape et nous devons être au centre Louis-Joliette à 13 heures précises. Un petit 32 km, ça, ça va. On déjeune, on libère le gymnase des matelas, des chaises et des tables. On s'habille chaudement, on dépose les bagages dans la remorque balai. Julien, le mécano, procède à quelques ajustements de dernière minute. Les vélos de location sont couverts de gadoue séchée. On déchiffre vaguement les noms des jeunes inscrits au feutre sur un bout de ruban collé sur le cadre. Le cortège se met en branle à l'heure prévue, divisé en deux groupes bien encadrés, devant et derrière. Deux invités de marque se joignent au groupe aujourd'hui. Sébastien Lapierre, le président d'honneur, qui en impose par ses exploits, notamment sa conquête du Pôle Sud en solitaire l'année précédente, ainsi que Martine Côté, journaliste à la radio de Radio-Canada, qui effectue de nombreuses interventions en direct, expliquant au public leur présence, ce qui leur vaut de multiples coups de klaxon d'encouragement. Jusqu'à Saint-Augustin-de-Desmaures, ils circulent sur le chemin du roi, un tronçon pittoresque de la route verte, agrémenté de quelques points de vue sur le fleuve et de jolies résidences ancestrales. Les jeunes roulent très bien, respectent les règles de sécurité apprises au cours de la semaine. Le froid et le vent sont bien endurables pour un habitué de la place. Nos cyclistes, toutefois, ne se découvrent pas d'un fil. Certains portent la combinaison de ski de bosse de l'équipe olympique canadienne, gracieuseté de Philippe Marquis. On distingue à peine les visages derrière les passe-montagnes, foulards et lunettes de ski. Il reste juste un petit trou pour le sourire, car ils ont du fun. Ils se tirent la pipe, entonnent des chansons dans des langues difficiles à identifier, surtout avec les babines gelées. Thiar, jeune Thaïlandais de 12 ans, maintient la cadence sans problème. On dit qu'il n'avait jamais pédalé avant les quelques entraînements de spinning et de fat bike qui ont servi de préparation à l'événement. À le voir grimper en danseuse, le sourire aux lèvres, c'est dur à croire. À l'improviste, le curé de Saint-Augustin-de-Desmaures les invite à les réchauffer dans le sous-sol de l'église. D'accord, mais pas longtemps, car ils sont attendus. Un petit café, un petit pipi, une photo de gang devant l'église, et c'est reparti. À la campagne succède la banlieue, puis la ville avec ses nids de poules et ses abords de rues glacées. Les intersections obligent à stopper souvent. Toutefois, le groupe est discipliné. La fébrilité augmente à mesure que l'arrivée approche. Nous arrivons pile à l'heure au centre Louis-Joliette, alma mater de la majorité des jeunes du groupe, où ils suivent leur cours de francisation. Wow! 300 personnes sont massées près de l'arche d'arrivée. L'accueil est aussi délirant qu'émouvant. Les jeunes sont submergés par leurs familles nombreuses. Dans les pleurs et les étreintes, on sent que l'inquiétude des jours précédents fait place à une fierté immense. Quelques discours sont de mise pour clore les retrouvailles. En résumé, ça dit « Vous êtes courageux, vous êtes beau, vous êtes bienvenu ici. Prenez votre place, l'avenir vous appartient.
Wow. »
C'était Challenge polaire, pédaler pour s'intégrer dans le Vélomag de mars 2019.
C'est un beau projet. Hein? Mm-hmm. On pédale en chanson.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Elle est presque aussi vieille que moi, cette chanson. 1968, c'était Yves Montand. Mmh. C'est un clin d'œil à vous, Yvan. Là. C'est évidemment en lien avec votre sujet. Ben voyons.
OK, parce que je suis plus âgé que ça, moi.
Pas avec l'âge.
Ouais, c'est non, ça. Pas du tout. C'est avec le lien de votre sujet précédent, la bicyclette.
OK, OK.
Merci, Jean-François. Alors, je reprends donc la parole.
Les écureuils.
Les écureuils. C'est un article d'Elisabeth Le Siac, toujours pour la revue Science et Avenir de décembre 2018. Ça s'intitule « Une mémoire d'écureuil ». Alors, on peut repousser le vieux cliché de l'écureuil qui cache frénétiquement ses réserves et se montre incapable de les retrouver l'hiver passé. Il y a de récents travaux qui ont été menés au Royaume-Uni et aux États-Unis qui montrent au contraire qu'ils déploient des trésors d'ingéniosité pour gérer, alors écoutez bien combien de petites graines ils cachent, de 3 000 à 10 000 graines ou noisettes qu'ils cachent tous les ans.
Hey.
Alors, au point d'être capable, après l'hiver, d'en retrouver les deux tiers. Alors, on pense toujours qu'ils ne les retrouvent pas, mais ce n'est pas vrai. Comment fait ce petit écureuil? Alors, d'après Michael Delgado de l'Université de Berkeley en Californie, les écureuils ne font rien au hasard.
Ils planifient
et ils prennent des décisions. Ils manipulent d'abord les aliments pour évaluer leurs caractéristiques. Ils mangent les baies et les autres fruits périssables et mettent en réserve près de 80 % des fruits à coque qu'ils récoltent, comme les noix, les noisettes, les arachides, et se débarrassent des coques vides, trop légères ou abîmées. Les agiles petits rongeurs poussent encore plus loin leur système de tri. La chercheuse a montré que les animaux rangent les aliments par catégorie.
Ah, c'est drôle, ma blonde fait la même chose.
Alors, il y a 45 écureuils qui ont été testés, si vous voulez. Ils se sont vus distribuer des lots de 16 fruits à coque de 4 sortes différentes, noix, noisettes, amandes et noix de pécan. Quel que soit l'ordre de distribution des variétés, les écureuils les ordonnent et enterrent les noisettes dans un lieu, les amandes dans un autre lieu.
Et c'est fascinant.
Alors, ce comportement s'apparente à ce qu'on appelle le chunking, la mémorisation par bloc. C'est une technique qui consiste donc à rassembler des informations par petits groupes afin de mieux les mémoriser. Mm-hmm. On utilise cette méthode-là pour classer nos dossiers dans notre ordinateur,
ben oui.
Dossier sous dossier. Mais il y en a qui ne se retrouvent pas, mais enfin. Ça, c'est autre chose. Alors, contrairement donc à une idée reçue, l'écureuil ne compte pas principalement sur son odorat pour mener à bien ses recherches. Il y a une autre équipe du Massachusetts Institute aux États-Unis qui a créé des cachettes artificielles. Chacune assortie d'une odeur, d'une couleur et d'une position particulière. Ils ont entraîné les écureuils à les retrouver, les récompensant à chaque visite. Ensuite, les chercheurs ont changé les indices olfactifs et visuels. Quand la couleur ou les éléments de l'environnement, que ce soit le relief, l'arbre, les parois, ont été modifiés, eh bien, les animaux sont restés sur leur faim.
Mm-hmm.
En revanche, ils n'ont pas été perturbés par la suppression ou la modification de l'odeur. C'est fou, hein?
Oui, c'est fou.
Franchement, là. Alors, ils retrouvaient alors sans peine leur cachette grâce aux repères visuels et spatiaux qu'ils ont mémorisés. Alors, les écureuils s'appuient sur une excellente mémoire spatiale. Une dernière chercheure, Lucia Jacob, de l'Université de Princeton, a montré que l'écureuil gris retrouve principalement ses réserves et non pas celles de ses collègues, ses congénères. Ils sont capables aussi d'identifier les voleurs potentiels et alors ils adaptent leur stratégie en conséquence. Et finalement, ben, les écureuils sont capables de duper. Alors, ils vont creuser.
Duper.
Oui. Ah, ils vont creuser des caches et vont les laisser vides.
Oh.
Alors, voilà ces petites bêtes qu'on trouve.
J'ai failli dire les crapauds, mais c'est des écureuils.
C'est des écureuils. Ces petites bêtes que, des fois, on aime détester. Ben,
oui.
Voilà.
Chez nous, il doit avoir un plan de l'endroit où on a planté des bulbes de tulipes.
Oui, oui.
Ils ont
oui.
un plan de
oui,
ça.
Oui, il y a un plan de ça. Exactement.
Ils se souviennent très bien où est-ce qu'ils ont caché la nourriture si on se fie à ce qu'ils ont de l'air.
Oh, oui. Exactement. C'était donc un article d'Elisabeth Le Siac pour la revue Science et Avenir de décembre 2018. Alors, Marie, on se transporte en Angleterre, si
oui,
j'ai bien compris.
On s'en va en Angleterre, où les écoles expérimentent la méditation. C'est un texte de Delphine Pérez, publié sur le site leparisien.fr le 5 février dernier. Le gouvernement britannique a lancé un programme test de méditation à grande échelle pour améliorer la santé mentale et le bien-être des écoliers. Alors, prenons tous ensemble une grande inspiration.
Par le nez, hein?
Par le nez, soufflons doucement. Dans quelques 370 écoles anglaises, des centaines d'enfants et d'adolescents vont apprendre la méditation pour améliorer leur bien-être et leur santé mentale. Programmée jusqu'en 2021, cette expérimentation est la plus importante au monde sur ce type de technique en milieu scolaire. Dans les établissements sélectionnés, les enfants pourront s'essayer avec des professionnels, aux techniques de relaxation, de respiration et à la méditation pour les aider à réguler leurs émotions. Et ça, c'est écrit dans un communiqué gouvernemental qui est paru le 4 février. Cette étude pratique doit déterminer quelle approche se révèle être la plus efficace pour améliorer la santé mentale des écoliers. Notre société est plus ouverte que jamais sur ce qui touche à la santé mentale, mais le monde moderne apporte de nouvelles sources de pression sur les enfants. Ces essais sont donc essentiels pour mieux comprendre comment des conseils simples et pratiques peuvent aider les jeunes à mieux faire face à ces pressions. Et c'est le secrétaire d'État à l'éducation, Damien Hines, qui a cité ça dans le communiqué. Méditer, c'est s'entraîner à fixer son esprit pendant plusieurs minutes sur quelque chose, que ce soit le souffle, un son, un point, etc., explique une des spécialistes qui a enseigné le yoga et la méditation dans le monde entier. Il faut savoir que dans certaines écoles défavorisées, les enfants méditent déjà parce qu'en novembre 2018, une enquête du National Health Service, c'est le système de santé britannique, avait révélé que 12,8% des enfants entre 5 et 19 ans présentaient un trouble mental. On parle d'anxiété, de dépression, d'hyperactivité ici ou de violence. Au Royaume-Uni, des écoles des zones défavorisées enseignent déjà la méditation pour soutenir les enfants touchés par la violence. Il y a un directeur d'une école primaire au nord de Liverpool qui dit « Nous voyons beaucoup de pression exercée sur les épaules des enfants en raison de la situation de famille, de la perte d'un emploi, du stress financier, de l'anxiété suscitée par la criminalité et de la peur du sans-abrisme. » C'est particulier.
Ouais.
Un garçon de 9 ans a confié que la respiration de pétale, où les enfants ouvre et ferme les doigts au rythme de leur respiration. Vous essayerez? Essayez, c'est vraiment fun. Et ça, ça l'aide à oublier tout ce qui fait peur. Il dit, cet enfant, si je me concentre sur ma respiration, les pensées inquiétantes peuvent disparaître. Au niveau national, le projet Mindfulness in Schools a formé près de 2000 enseignants en 2018, soit une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est due en grande partie aux écoles où la proportion d'enfants vulnérables est supérieure à la moyenne. Alors, moi, je suggère à tous les députés britanniques, aujourd'hui, dans les jours qui viennent, de pratiquer la respiration de pétale pour les aider à prendre de bonnes décisions.
Tout à fait.
Dans le calme.
Et le mindfulness, c'est la pleine conscience.
Voilà, c'est ça. Français. Alors, on peut retrouver cet article sur le site leparisien.fr. C'est un article de Delphine Pérez.
Merci, Marie.
As I settled into my mind, now we're blaming you. Harshness settled into my mind.
Things were said and now we're done.
Things were said and now we're through. As I settled into my mind, now we're blaming you. Things were done and now been said.
Things were done and now been said.
Things were said and now we're through. Still jumping, and the curtains are bright. Your daddy's poor, and your mama's ugly. So screaming, men do cry, do cry, do cry, do cry. Oh.
C'est beau, c'est bon, c'est doux, ça fait du bien.
Oh, totalement.
Vous voulez savoir c'est qui, hein?
Je sais c'est qui,
vous le savez, vous?
Ben, je la vois, je ne peux pas me rappeler de son nom, je sais qu'il est composé.
Son nom est Dominique Fils-Aimé. Voilà. C'est tiré de son tout récent album, il y a à peine quelques semaines, qui s'appelle Stay Tuned, et cette chanson se nommait Big Man Do Cry.
Oui, je voulais voir son spectacle, mais c'était complet.
Bon. Allez-y pour vos brèves.
Alors, le soleil, c'est notre allié.
Ah oui.
Il fait un petit peu plus doux. On pense que c'est le printemps, mais non, c'est encore l'hiver. Donc, la lumière du jour est une source de nombreux bienfaits. Il faut en profiter pour régler son horloge interne, pour bien dormir, pour prendre soin de ses os, pour protéger son moral, pour entretenir son immunité et pour stimuler son cerveau. S'il n'y a pas assez de soleil, on regarde des lumières, n'est-ce pas?
Oui.
Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres, qu'on appelle de la luminothérapie.
Oui.
Voilà. Marie?
Alors, je vous ai parlé tantôt d'une animation qu'on peut retrouver sur le site toutpetit.org. Dans cette animation, notamment, on apprend que les interventions pendant la petite enfance, ça serait très efficace chez les enfants d'âge scolaire, les adolescents. et chez les petits, donc, parce que leur cerveau est très, très malléable. Mm-hmm. Des faits intéressants, le cerveau d'un bébé triplera de volume durant les 3 premières années de sa vie, notamment.
Merci. Oui, très intéressant. Cher Yvan.
Pour rester sous le thème du soleil, la ville de Montrouge, à proximité de Paris, entend développer la mobilité verte en permettant à ses employés d'utiliser des vélos électriques solaires. Les vélos en question sont équipés de piles photovoltaïques à haut rendement qui accordent une autonomie d'environ 40 km.
Un petit mot d'enfant, Marie.
Oui, la peinture, selon Tiana, 8 ans, le plus célèbre peintre, en fait, pas la peinture, le peintre, le plus célèbre est le homard de Vinci. Oh!
Qui souffrait de strabisme, on se rappelle de ça.
Oui, puis il y a eu une période rouge, lui. Hein?
Oui, oui.
Rouge et verte.
Rouge et verte, c'est ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Marie Lalonde. Merci à Yvan Deslauriers. Et bien sûr, un immense merci à Jean-François Roy.
Bravo!
N'est-ce pas?
Merci Monique aussi.
Merci. Et bien, écoutez, à la semaine prochaine.
Oui,
et
au printemps.
Au printemps.
Oui!
c'est jeudi. Qu'est-ce que la nuit mars aujourd'hui? 14 mars, Hélène Denis qui vous accompagne. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Michel Saint-Jacques, chargé de projet pour parler de Ali Découvert sur la santé mentale. C'est vraiment une très belle initiative. C'est pas la première année, Madame Saint-Jacques, nous donnera tous les détails un peu plus tard au cours de l'émission. Et Marc Renaud sera là. Monsieur Renaud est co-fondateur et chargé de projet au Centre d'information sur le Dauphin. Il nous parlera de la semaine mondiale du Dauphin. Bonjour Jean-François.
Bonjour Hélène.
C'est Jean-François Roy qui est là comme à tous les jeudis depuis quelques temps.
Oui, c'est une bonne habitude qu'on a pris.
Mais oui, ça va bien.
Oui, merci.
Oui. Ah oui, ça va très très bien, merci. Alors moi, je vais vous voir, vous me tutoyer, mais c'est correct comme ça. On dirait qu'il faut aussi à faire la radio en voyant les gens là, ici en dehors des Mais je suis de cette école-là, que vous, c'est difficile de changer ça.
C'est vrai que c'est difficile, je ne sais pas où vous passez.
Oui.
Mais moi, j'aime bien aussi un peu plus.
Oui.
On verra qu'il y a d'autres familles.
Bon, là, vous voyez moi d'abord.
C'est ce que je vais faire.
Jean-François, je vous écoute.
Alors, le 14 mars, journée internationale d'accès pour les bouquins. En 1923, une radio de Regina, c'est pas si bien, diffuse la première description en direct d'un match de hockey. 1946, pour l'Union soviétique, uniquement élu communiste de l'histoire du Canada en 1943, il sera condamné et purgera.
C'est la musique de Louise Attaque avec
en
le
1964,
temps.
En 1964, à Dallas, le tenancier de cabaret Jack Ruby assassine Lee Harvey
Allons-y
Oswald.
Allons-y avec le Journal de Montréal en une de ce
Ruby
jeudi 14 mars.
En appel et mourra en
la bombe
d'un cancer.
Se bat contre
1980,
le cancer. Et oui, le maire de Québec, Régis Labeaume, est atteint d'un cancer de la prostate. J'y reviendrai un peu plus tard, puisque ça fait la une aussi du Journal Le Soleil de Québec. L'affaire SNC-Lavalin fait mal à Trudeau et profite aux conservateurs. Ce sont des résultats de sondage du sondage léger fait au début de février.
Hausse
du prix de l'essence, la gourmandise des pétrolières n'a pas de fin. C'est la chronique de Michel Gérard.
Donc, il a vécu de 1804 à 1849. Le physicien, célèbre physicien allemand Albert Einstein également. Et aussi Quincy Jones en 1933. Trompettiste, arrangeur et producteur américain de Chicago et entre autres produit.
Trudeau écorché par SNC-Lavalin. La gestion catastrophique de l'affaire SNC-Lavalin par Justin Trudeau érode l'avance des libéraux.
Michael Jackson,
un grand artiste du Parti conservateur à l'aube des élections fédérales, plus ou moins en bien et même en très mal de situation. On n'a pas vraiment envie d'entendre ces chansons.
On a moins de plaisir
léger
à redonner. Il y a certainement
un parti libéral à l'aise. 4% encore de cette télé-série qui a été présentée sur HBO, qui sont des intentions de vote dans la belle province.
Écran, je vous donnerai des nouvelles dans mon
segment. Conservateurs d'Andrew Scheer qui semblent en profiter. Jean. Eux J'allais qui grimpent de 5% pour atteindre 26%.
Merci Jean-François!
Même si les libéraux mènent toujours au Québec, le recul n'augure rien de bon pour le parti. En cette année électorale, les troupes du premier ministre comptent sur des gains dans la province pour compenser d'inévitables pertes ailleurs au pays. S'il ne consolide pas ses appuis au Québec, Trudeau perd le pouvoir, avance carrément le président et fondateur de Léger, Jean-Marc Léger. Le coup de sonde a été réalisé par Internet du 8 au 11 mars 2019 auprès de 1 000 Québécois.
Une enquête
sa marge d'erreur est de 3,8%.
Bien qu'aucune donnée scientifique ne démontre 20.
Leur efficacité, alors, les pharmaciens recommandent l'achat de produits homéopathiques
début février. C'est parce qu'il y a
certains travaillent même de concert avec la naturopathe,
ce qui est le 2 février 2019, Justin Trudeau obtenait 39%
la chronique d'Alexandre Pratt.
Et si Stephen Brockman achetait les alouettes,
le nouveau sondage,
la chronique de Marie-Claude Lortie,
qui a été réalisée Saint-Hubert, vendu en épicerie,
on a 35%
du poulet de 26%
dans votre assiette.
Pour le Parti conservateur.
Et le Canada en bois québécois de Yves Blanchet, de 17%
Ottawa de fermer son ciel aux avions 7 mai, 9%
Washington,
nouveau Parti démocratique du Canada de Jack Meade, 7%
Parti populaire du Canada de Maxime Bernier, 4%
Des produits homéopathiques affichant des prétentions
non scientifiques présentés sur les mêmes rayons que
ferait le meilleur premier ministre du Canada.
Des pharmaciens qui en recommandent l'achat,
d'autres qui travaillent de concert
Maxime
avec
Bernier,
des naturopathes,
ce qui interdit pourtant leur code de déontologie.
C'est une enquête de la presse Trudeau, qui indique que la gestion des produits homéopathiques conduit à des dérapages en pharmacie.
Électorale de l'élection
un dossier de Philippe Mercure.
54%
Et
répond
ça fonctionne
une faible partie
devant le
une
majorité
des ordonnances
25%
du Family Prix du quartier Pointe-Saint-Charles à Montréal
de répondre à la question
nous
donc croyez-vous que Justin Trudeau a rempli ses promesses électorales de l'élection de 2015 14%
un produit homéopathique
et 5%
censé soulager les états grippaux
ou toutes ces promesses
vendent 37,99$
Le hic, ce produit est si dilué qu'il ne contient en fait que du sucre et du lactose. Non seulement il n'existe aucune preuve de son efficacité, mais toutes les connaissances scientifiques pointent aussi dans la même direction. Outre l'effet placebo, il n'y a aucune chance que ces capsules aient le moindre effet sur la grippe. Je l'ai déjà essayé et ça a marché, mais il faut faire vite. Aussitôt qu'on a les symptômes,
alors, ça fait aussi la une
la
du Journal de Montréal, le fait que
Régis
Labeaume
est atteint du cancer de la prostate.
Et on a rencontré un
au mois de février, en pleine saison de la grippe,
la presse a répété
maladie.
Le journal s'est entretenu avec Christian Fortin, appartenant à de grandes chaînes.
Famille à la clinique Jean-Coutu,
proxime Family
de Québec, au sujet du cancer de la prostate.
Notre était toujours la même.
Et parmi les questions posées, le cancer de la prostate est-il fréquent?
De fièvre et de douleurs musculaires.
Réponse du médecin, il s'agit d'un cancer très fréquent,
le plus fréquent chez les hommes.
Ce n'est pas le stade de sa maladie, mais c'est important de détecter
le
cancer le
plus vite possible.
Des 20 pharmacies visitées,
comment est-il dépisté
avec le produit
sur les rayons.
Il n'existe
pas
de programme de dépistage systématique du cancer de la prostate
contre le produit.
À partir de 50 ans,
on doit discuter de la pertinence
du dépistage dans chaque cas.
Dans 6 autres cas,
le dépistage de la pharmacie
avec une recommandation d'achat.
Test sanguin.
Celle-ci avait été faite par le pharmacien lui-même.
Ou par une
les pronostics sont-ils bons
d'abord pris
lorsqu'une personnalité publique annonce
à cette maladie
que nous avions demandé de
tout le monde à cette
dans un pharmaprix du centre
les pronostics
notre
de survie sur 5 ans sont excellents
travaillant en
c'est
pharmacie,
un cancer qui a des traitements efficaces
qui contrevient au code de déontologie des pharmaciens.
La naturopathe nous a assuré que l'ocillocoxinum était un casse-grippe efficace et dans 6 autres établissements les pharmaciens nous ont envoyé des messages ambigus.
La ville
on y
se prépare aux
trottinettes,
les trottinettes
et vélos
électriques
en libre service
pourraient faire de la compétition
à Bixi cet été dans les rues de Montréal.
Si on
il y a des
la
personnes
qui a présenté
qui
un règlement pour les encadrer
et d'autres
et
qui ne
même
jouent
si
que
le gouvernement
ça.
Provincial
je pense
ne
que
permet
c'est très
pas
dépendant
encore
de la sensibilité
dans les
de chacun au médicament.
Au ministère des Transports,
c'est un pharmacien d'une succursale brunet
pour indiquer
près du métro
projet pilote
qui permettant l'introduction de trottinettes électriques
sur les routes.
On va faire
mais
un rappel à Montréal
et dire que Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec, demande les résultats de notre
petite enquête.
La branche d'Uber qui offre des vélos en libre service
en janvier dernier,
le communicateur scientifique de trottinettes électroniques
Lime,
biologiste
moléculaire
et membre de l'Organisation pour la science
et
la société de l'Université McGill,
leur intérêt à s'implanter dans la métropole.
150 pharmacies de l'île de Montréal
et découvert que les deux tiers d'entre elles
en avril
prévoient
des modalités
pour le stationnement
dans
leur
rayon.
C'est son travail qui nous a donné l'idée de
immobiliser
ce reportage
sur les trottoirs.
Et dans une déclaration écrite envoyée à la presse, l'Association des bannières et chaînes de pharmacie du Québec a affirmé qu'elle avait historiquement présumé que l'usage des médicaments homéopathiques était sans danger et qu'ils avaient une utilité pour certaines personnes. Cependant, nous avons été informés au cours des dernières semaines de nouvelles publications que nous jugeons crédibles et qui mettent en doute leur efficacité, écrit l'Association. Et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires dit quant à elle avoir envoyé récemment un rappel à ses membres pour leur rappeler l'importance d'exercer leur jugement professionnel lorsque des patients se présentent en pharmacie pour se procurer des produits homéopathiques. Cuisiner en fonction du nouveau guide alimentaire canadien permettrait à une famille de 4 d'économiser 700 $ par an, selon une étude qui paraît aujourd'hui. Mais ces chercheurs recommandent d'en profiter car ça ne durera pas.
La réduction de la part de la viande et des produits laitiers du menu quotidien de votre famille permettrait d'économiser
exclusif,
pas moins de 1,98 $
qui signe le texte.
La formation de la main-d'œuvre et les conjointement pour des chercheurs maintenir de les retraités sur le marché du travail
Halifax,
seront
et de l'Université
Guelph
en Ontario,
budget d'Éric Girard,
dont les résultats
qui sera
seront
déposé le 21
aujourd'hui.
Mars à l'Assemblée nationale.
Pour ce faire, ils ont comparé
selon les informations
réunies
selon
par la presse,
menu, le budget ne devrait commander le voile sur des baisses alimentaires
qui
canadiennes
qui
à celles qui
à
ont déjà été promises par la CAQ
en 2007.
En campagne électorale,
c'est dans une situation
hier,
idéale
le premier ministre Legault
a rappelé l'engagement de son parti à remettre de l'argent dans le portefeuille des familles,
on cuisine
mais a rappelé
repas,
que les décisions du directeur
se trouvaient dans le cadre financier
déjà soumis
qui enseigne la distribution et les politiques agroalimentaires.
Un effort particulier
le niveau
sera
guide
fait
alimentaire
c'est
le financement
des soins
à domicile
est
prévenu hier
mais maintenant
des mesures avaient déjà été annoncées
en décembre
constituées
de
légumes
on parle de
200
millions
de
plus
c'est
par
beaucoup plus que ce
que
recommandait l'ancienne
version le gouvernement peut saupoudrer
en achetant des fruits et légumes
dans des
selon les saisons
et du congé. Les
c'est effectivement
possible
de faire des économies
de ce côté-là.
Mais qu'il restera méfiant à l'égard des
Emmanuel
dépenses récurrentes susceptibles de
croître
la pression
sur la nutrition
en cas de
ralentissement
de l'économie.
Mais c'est là qu'il risque d'y avoir un problème dans les prochaines années, explique le chercheur Sylvain Charlebois, puisque le prix des légumes et des fruits risque de varier grandement.
Le docteur Julien s'excuse pour ses maladresses, accusé d'avoir entretenu un climat de travail toxique au sein de son organisme de pédiatrie sociale.
Le
docteur Julien présente ses excuses à ses employés présents et passés.
Aussi être appelé à grimper
dans la foulée, le célèbre pédiatre cède son poste de
directeur général
mais demeure président du conseil d'administration et directeur clinique de la fondation du docteur Julien
pour les fruits et légumes.
Je vous écris aujourd'hui pour vous présenter mes excuses pour mes maladresses et pour ce qui a été perçu comme un manque de compassion et d'introspection de ma part, a déclaré le Dr Julien dans un message adressé hier aux employés présents et passés, bénévoles, partenaires et donateurs
de la
Fondation.
En a assez
les excuses
des contraventions impayées
par les travailleurs de la presse publiée lundi sur la crise qui a ébranlé l'organisme au cours de la dernière année.
Pour pousser le
au moins
10
employés et 5 gestionnaires
la
ont claqué la porte,
a posé
se disant victime d'intimidation
de
la part de
Dr Julien
dans le Vieux-Montréal
et de sa femme,
le
Hélène
constructeur
Sioui
Prudel,
un peu plus de
qui elle aussi a présenté ses excuses.
Anne Bégin, directrice des communications chez KPH.
À notre connaissance, il s'agit du premier événement du genre et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour éviter que cela se reproduise, a-t-elle dit. Comment nourrir seulement 10 milliards d'humains d'ici 2050 sans détruire la planète? Le célèbre rapport de la commission Eat Lancet, qui a fait couler beaucoup
le Canada
depuis
synonyme
sa publication
de
en janvier dernier,
Vancouver, Toronto,
tente de
Ottawa,
résoudre
Montréal,
cette enjeu. Villes canadiennes sont
l'un des 37
en
scientifiques
de la
qui se sont attelés
à cette tâche
de la qualité de vie
des principales Brent agglomérations
Brooken
urbaines
était de passage à Montréal
hier par la multinationale
de gestion
de
des ressources humaines.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une
Mercer
série d'événements à travers
c'est
le monde qui vise à sensibiliser les gens au changement nécessaire pour
nourrir
dans ce palmarès mondial en arrivant au troisième
rang
d'humains de plus
derrière Vienne,
tout en préservant les écosystèmes et en freinant les émissions de gaz à effet de serre, responsables du
alors,
réchauffement climatique.
Toronto arrive
la
au 16e
rang mondial,
plus de végétaux
Ottawa
et moins
de
viande
au 19e
rang,
et près Montréal
de 200 personnes de divers horizons
ont
évalué la
qualité la
de vie de
231 villes à l'échelle de la planète. La ville des États-Unis qui obtient la meilleure position est San Francisco au 34e rang, suivi par Boston au 36e rang. Mercer s'est servi de plusieurs critères pour établir ce classement.
Un immeuble
dont la qualité
quatre étages abritant une école s'est effondré hier à
Lagos,
la sécurité
et le climat
socio-économique
nigérien
au bas de la liste
au moins
8
villes
morts.
Aux prises avec des
le
conflits,
dernier étage abritait une école maternelle et primaire tandis que des appartements et des commerces occupaient le reste de l'immeuble.
Bagdad.
37 personnes ont été sorties vivantes et 8 personnes ont été retrouvées mortes.
Des dizaines d'enfants se trouvaient à l'intérieur du bâtiment lorsqu'il s'est écroulé. Les opérations pour secourir les victimes se poursuivaient au moment d'écrire ces lignes. Autre tragédie, cette fois au Brésil, deux anciens élèves ont tué par balle 8 personnes avant de se donner la mort hier matin dans un collège de Suzano, a annoncé la police.
Et pour terminer,
l'attaque
un quart
dans l'établissement
des
scolaire situé dans
le
maladies
grand
à travers
Sao
le monde
Paulo,
sont liées aux
dans
pollutions
le
et
du Brésil
aux atteintes
a également
à l'environnement
fait au moins 10 blessés,
a ajouté
un porte-parole.
L'ONU hier dans
les assaillants ont été identifiés comme deux anciens
de
élèves
de 17 et de 25 ans
dont les motivations restaient
et la destruction
inconnue.
Accélérée des
les victimes
écosystèmes
sont 5 élèves
à la survie de milliards de personnes
et un gardien de l'établissement.
Une sorte ainsi que le propriétaire d'une station-service abattue, selon le texte.
Avant de pénétrer
ce rapport
dans
sur l'environnement mondial, c'est la scène sur laquelle on travaille 250 scientifiques pendant 6 ans.
A dit le gouverneur de l'État
souligne
de Sao Paulo.
Souligne également un fossé grandissant entre pays riches et pays pauvres.
Pardon,
surconsommation, pollution et gaspillage alimentaire au nord précipite famine, pauvreté et maladies au sud. Et alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter, les dérèglements climatiques, comme les sécheresses ou les tempêtes, risquent de s'ajouter au fardeau de milliards de personnes.
On peut certainement parler d'un souvenir. Dans ce cas-ci, c'était Dany Robitaille avec la pièce Castel qui date déjà de 2000.
Alors, en une du devoir de ce 14 mars, on a un avion d'Air Canada, transport aérien, le P737 Max ne vole plus. Le Canada et les États-Unis ferment la marche des pays ayant cloué l'appareil au sol. Une rupture difficile à encaisser, Catherine Fournier se dit surprise de la virulence des réactions à son départ. La web-série prend du galon, deux productions québécoises sont nommées au Festival Cannes Série. Une photo de Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques,
qui est
dans
Fond,
Théodore,
qui
pas de
H. Série de son dernier
et
album,
culture
en
encore, parole de jeunes Québécois, la chronique d'Odile Tremblay.
Merci Jean-François.
Économie, le programme fédéral sur les
infrastructures des journaux
régionaux
n'a pas eu l'effet d'entraînement.
Je vous en parlais tantôt de Régis Labeaume, qui est atteint d'un cancer de la prostate, qui fait la une du Journal de Montréal. Et aussi, il est en une du Soleil, bien évidemment. Jean-François Néron écrit un article. Le cabinet du maire de Québec a annoncé mercredi que Régis Labeaume est atteint d'un cancer de la prostate. Cette triste nouvelle a été suivie d'un concert d'encouragement, même au-delà de la joute politique. Le maire a fait une première annonce à ses proches collaborateurs et collègues. Monsieur Régis Labeaume a rencontré aujourd'hui, mercredi, son personnel, son équipe ainsi que la direction générale de la ville, afin de les informer qu'après quelques mois d'investigation, on lui avait diagnostiqué un cancer de la prostate, a fait savoir par voie de communiqué son attaché de presse, Paul-Christian Nolin. L'annonce à la population plus tard en journée était nécessaire par souci de transparence, précise-t-on. Le maire allégera graduellement son emploi du temps en prévision de la suite des choses, poursuit le communiqué. Il devra éventuellement s'absenter pour une convalescence d'une durée d'environ indéterminée. D'une durée encore indéterminée. M. Labeaume, qui aura 63 ans le 2 mai, continuera d'exercer ses fonctions, mais devra déléguer certaines responsabilités aux membres de son équipe, avise encore M. Dallin. Mercredi, le cabinet ne voulait pas commenter davantage la situation.
Le Boeing 737 MAX, cette nouvelle arrive à un moment enregistré les projets les plus rapides de l'histoire de l'avionneur américain, notamment l'implantation du tramway
et la construction du centre de biométhanisation
des États-Unis de le clouer au sol mercredi,
comme l'avait déjà décidé des dizaines de pays et la ministre responsable de la capitale
nationale. L'appareil impliqué dans deux écrasements en l'espace de cinq mois est pratiquement inopérable dans l'ensemble du globe.
Et celui de leur gouvernement, l'agence de l'aviation civile américaine,
dans les dossiers,
a changé de cap mercredi après-midi en décrétant une interdiction de vol pour tous les Boeing 737 MAX sur le territoire américain, qu'il soit opéré par une compagnie américaine ou étrangère. Dans une déclaration écrite, elle a indiqué que sa décision a été prise après avoir eu accès à de nouvelles preuves récoltées sur le lieu de l'écrasement survenu dimanche en Éthiopie,
un centre d'action bénévole plus accessible,
c'est dans la voie de l'Est.
Je pense que c'est une excuse, estime le professeur de l'UQAM et spécialiste de l'industrie aéronautique Mehran Ebrahimi.
La trajectoire satellitaire, c'est la première chose qu'on peut regarder
à la suite d'un écrasement.
A permis au centre d'action bénévole de Saint-Césaire de doter sa friperie d'une salle de toilette adaptée aux personnes à mobilité réduite. Ce printemps, une rampe d'accès sera aussi aménagée à l'entrée du commerce.
Catherine Fournier savait
le
que son départ
du Parti québécois ferait des vagues, mais elle
Pierre
n'avait certainement
Breton
pas anticipé
annoncer
leur virulence,
l'octroi
non
de la
plus que des péquistes remettent en question sa maturité
bénévole,
en présence
alors
d'employés
qu'ils célébraient deux jours
du conseil
plus tôt sa jeunesse.
De l'organisme
les gens
de même
que
PQ veulent
tellement avoir
de Saint-Césaire.
Ils étaient tellement
comme
contents d'avoir une jeune femme avec eux,
soulignait
la députée mercredi
lors d'une longue entrevue accordée au Devoir,
a rappelé sa directrice générale Karine Longueuil.
Mais
on essaie d'utiliser notre imagination
à lancer.
On remet en question ma maturité
comme celui annoncé
hier,
hier
à permet à l'organisme d'améliorer ses locaux
des questions
et de les rendre à la fois plus accessibles et conduits si j'avais été plus
vieille.
Clientèle.
Et peut-être un homme,
nous avons des aînés parmi nos
c'est
clients
comme si
et nos bénévoles
de 26 ans n'était pas capable de prendre une
nous
grosse décision.
Nous avons aussi des clients qui arrivent
Madame
en fauteuil roulant
aussi que depuis lundi,
certains
dans notre magasin
sont
derrière ma
décision
que je serais la marionnette de ces personnes
pourrait permettre à l'organisme
de bonifier son offre de
Jean-Martin Hossan, de qui
on aimerait offrir des plateaux
a d'ailleurs
de
senti le besoin mercredi de corriger des
au sein de la vibration
qui est également
dans tous les
un programme
d'insertion sociale
n'a pas l'emploi,
a fait savoir
Fournier,
Madame Tremblay,
pour qu'elle prenne la décision de siéger comme indépendante.
Nouvelliste Brigitte Trahan, deux projets verront le jour au centre-ville de Trois-Rivières, un d'ici l'automne et l'autre
la commission
au tout
scolaire
début
de la
janvier
pointe
2020.
De Lille,
c'est
les propriétaires de l'hôtel
les grands
oui,
moyens pour affronter
l'innovation
et le développement économique de Trois-Rivières,
entre guillemets,
qui frappe le milieu de l'éducation
patrimoniale
selon ce que le Devoir a appris,
où le jet confirmé
deux classes
de maternelle de 4 ans
à la rentrée de l'automne 2019.
L'hôtel
et s'apprête
oui,
à exproprier le terrain appartenant à un promoteur
millions de dollars afin d'y aménager 13
nouvelles chambres,
une mesure rarissime dans le réseau de l'éducation.
Donc,
cette commission scolaire de l'Est de Montréal prévoit d'avoir besoin de 156 classes supplémentaires à la prochaine rentrée scolaire.
Pour y aménager son
c'est un réel
casse-tête
parce que ces 41 écoles primaires et ces 7 écoles secondaires sont quasi à leur pleine capacité. On croit au bienfait des maternelles 4 ans en milieu défavorisé, mais on est dans une situation très sérieuse qui demande des solutions qui sortent des sentiers battus. On dit que l'éducation est une priorité au Québec, mais il faudrait que ça paraisse, dit Olivier Boudreau, président de la CSPI,
des aveugles et
rencontré mercredi à son
Montréal
bureau de Pointe-aux-Trembles.
Leur âme, projet qualité des habitations
à la
des personnes vivantes
scolaire de la Pointe de Lille
visuelle.
Comporte une série d'ingrédients.
En septembre dernier,
le nombre
dans
d'élèves
le cadre d'appels
explosé depuis
sept
ans. La hausse a été de 24%.
Le RAM
a suivi le projet qualité des habitations des personnes vivantes,
notamment
une
à cause
de
l'arrivée
de
réfugiés.
Nous tenons
les dernières prévisions
la bonne nouvelle faisait état
d'une hausse de 900 élèves pour l'année scolaire
2019.
Par plusieurs
ce sont plutôt 2000 élèves qui sont venus frapper
l'objectif
à la porte
général
des
du projet
de
et d'établir un bilan des conditions
et ça ne fait
d'habitation
que
des personnes aveugles.
La commission scolaire a besoin rapidement de 3 nouvelles écoles secondaires.
Pour atteindre cet objectif,
nous envisageons de procéder à la vérification des conditions d'habitabilité du logement,
faire le diagnostic des espaces communs en matière d'accessibilité universelle. 9 personnes ont répondu à notre invitation pour la rencontre d'informations sur la possible
dans
création
la édition de la revue Nature,
un groupe de 18 scientifiques et
il a été convenu que sans former officiellement une brigade internationale,
nous allons constituer une liste de membres intéressés à participer à des actions de mobilisation
et des embryons précoces à des fins cliniques,
kiosques, marches, manifestations, actions
de bébés génétiquement
les membres inscrits à cette liste seront contactés par téléphone lorsqu'une action de visibilité tant est organisée.
L'ensemble des membres du RAM
sera aussi contacté via nos canaux de communication habituels.
Quelques sorties sont déjà prévues au calendrier pour l'année 2019-2020, mais d'autres pourraient s'ajouter en fonction des projets du comité de sensibilisation, des mobilisations du milieu et des besoins du
dans A6, la page éditoriale, il y a des lettres. Je vous en lis une qui s'intitule « As-tu 2 minutes, point de suspension, à consacrer à la Terre? » Dans son nouvel opus, Steffi Choc nous fait le bonheur d'interpréter la très belle « As-tu 2 minutes » de Pauline Julien et Michel Tremblay. Un baume de fraîcheur sur cet hiver qui n'en finit plus. As-tu 2 secondes? As-tu 2 minutes? Dans ce climat d'urgence climatique, c'est un peu la même question que la Terre souhaiterait sans doute poser au monde avant son dernier souffle. As-tu 2 minutes à me consacrer? Oui, alors à la mobilisation mondiale pour pallier le manque de volonté politique de nos gouvernements. Oui, à la demande de plusieurs milliers d'étudiants de partout au Québec qui réclament un avenir viable. Oui, à l'appel du pacte participant à la grève mondiale pour le climat, vendredi 15 mars à 13h au pied du Mont-Royal et dans plusieurs villes au Québec. As-tu 2 minutes pour y penser? Avec 8 milliards de population mondiale, à coût de 2
minutes chacun, la Direction de la protection de la jeunesse recherche activement des familles pour accueillir des enfants ayant des besoins particuliers dans le jumelage tard.
Lorsqu'on présente ces enfants avec des caractéristiques plus sévères, les gens peuvent être frileux, souligne la chef de service adoption à la DPJ du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud de l'île de Montréal, Lise Cadieux. Des familles, banques mixtes,
une vingtaine
on en a
de
beaucoup,
groupes de médias et
mais
de
des gens prêts à investir dans un enfant avec ses caractéristiques,
de bonne
on en a
conduite
besoin davantage,
c'est dans le métro.
Les agissements
on trouve cet article que
le programme
Banque
mixte s'adresse aux petits pour lesquels un pronostic d'abandon
France
est identifié au moment
Disney,
du placement.
TF1, Canal+,
parmi eux, il y a des enfants ayant hérité
One,
du bagage
France,
génétique de leurs parents,
ou encore
déficience intellectuelle acquise, bipolarité, schizophrénie,
des petits présentant un retard de développement ou de langage important.
Des jeunes plus âgés qui présentent un trouble d'attachement,
ainsi que ceux qui ont été secoués par l'affaire de la Ligue du LOL,
un groupe de journalistes et de communicants qui harcelaient sur Internet principalement des jeunes femmes. Les médias signataires s'engagent notamment à informer leurs salariés, à mettre en place un dispositif d'écoute et d'aide aux victimes et à partager leurs bonnes pratiques. Une enquête menée en ligne par
Restez
les collectifs féministes.
J'aurai le plaisir de rencontrer Michel Saint-Jacques, chargé du projet
À livre ouvert,
un événement national de lutte contre la stigmatisation en santé mentale initié par l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale.